Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
À 7 ans et je sais pas s'il fallait l'inscrire ou pas. Il me semble que c'était 7 ans et
non,
plus.
C'est 3 ans.
Pour ce premier jour de test, ça passe. Ce père de famille a bien réservé pour lui et ses adolescents, mais pas pour son petit. Il a quand même pu franchir ce premier barrage en direction de la calanque de Sugiton. Mais cette maman, elle, n'a pas eu cette chance.
Pour accéder à certaines magnifiques calanques près de Marseille, il faut désormais montrer patte blanche, à savoir son QR code, prouvant que l'on a bien réservé son droit d'accès à cette merveille de la nature. Pas plus de 400 personnes par jour, explique ce reportage de TF1 diffusé fin juin. La Corse a aussi pris la même initiative pour trois de ses sites, les îles Lavezzi, les aiguilles de Bavella et la vallée de la Restonica. L'objectif est le même, protéger le lieu contre les conséquences de l'hyperfréquentation touristique, notamment en été. Ailleurs, c'est le porte-monnaie qui est visé. Le Bhoutan va fixer une taxe touristique quotidienne de 200 $, le triple de ce qu'il demandait auparavant. Cette sélection par l'argent servira à financer un tourisme neutre en CO2 et à développer un tourisme plus durable. Sale temps pour le tourisme de masse. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. La Story se met à partir de cette semaine en mode été et je vous propose pour commencer d'écouter 5 épisodes qui fleurent bon les vacances et la lutte contre les effets du surtourisme. Aujourd'hui, direction la Croatie. Voilà. Voilà, vous êtes déjà dans l'ambiance, la Croatie, Sea Beach and Sun. En 2021, le pays a attiré près de 14 millions de touristes, c'est plus de 3 fois la population locale. En 2019, avant le Covid, ils avaient été plus de 20 millions à découvrir la Dalmatie, Zadar, Zagreb ou encore Dubrovnik. Bonjour Frank Niederkorn.
Bonjour Pierrick.
Vous avez quitté les rives de la Garonne pour les bords de la Méditerranée, direction Dubrovnik, c'est en Croatie. La ville est surnommée la perle de l'Adriatique, à juste titre.
Oui, l'image n'est pas usurpée. Cette vieille ville, dans ses remparts, avec cette structure d'une ville médiévale, au sein de ses fortifications, avec quelques bâtiments encore médiévaux et beaucoup de bâtiments Renaissance, c'est vraiment l'image de la perle dans son écrin, avec ce petit port à quelques centaines de mètres, bordé au large de quelques petites îles qui semblent garder la ville. Et puis, avec ce sentiment, comme à Venise, d'être transporté dans le passé, puisque évidemment, aucune voiture n'a le droit de citer dans la ville. C'est vraiment quelque chose d'unique, de quasiment unique au monde et en tout cas en Europe.
Ouais, c'est une ville qui a su préserver les richesses de son passé et pourtant, elle a connu bien des malheurs.
Oui, c'est une ville qui a donc eu un passé riche puisqu'elle a été pendant 4 ou 5 siècles, elle a régné sur le commerce de la Méditerranée. C'était d'ailleurs la rivale de Venise qui était également célèbre pour sa construction navale. Elle était aussi célèbre pour avoir eu un mode de gouvernance qui a fait école un peu dans d'autres pays. Mais cette république de Raguse, puisque c'était le nom historique de la ville, a aussi, comme vous le disiez, connu bien des avanies et notamment des tremblements de terre parce que la région est sur une faille sismique. Et donc le plus important au milieu du XVIIe siècle qui a largement endommagé la ville et qui fait aussi son charme parce que finalement elle a été en partie reconstruite et les vieux bâtiments médiévaux ont laissé place à des bâtiments renaissance et donc elle est devenue absolument magnifique et puis elle a eu d'autres problèmes. Si elle a su préserver son indépendance, elle a subi la guerre de Yougoslavie au début des années 90 et elle a été durement touchée, puis assiégée, bombardée. Et ben enfin, on va parler de ce qui a été son dernier souci, c'est-à-dire ce tourisme de masse qui lui est un peu tombé dessus. En fait, c'est une ville qui a connu au début des années 2000 finalement un double traumatisme. Elle sort de la guerre et en même temps lui tombe dessus une économie de marché libérale à laquelle elle n'était pas du tout habituée.
Et Dubrovnik va voir effectivement arriver des masses de touristes, on va en parler. Mais la ville doit aussi sa notoriété à une série, Game of Thrones.
Oui, cette série à succès qui démarre au début des années 2010 et qui, après avoir tourné ses premiers épisodes à Malte, finalement a trouvé à Dubrovnik l'imaginaire du roman de George Martin avec cette capitale, King's Landing, qui est la capitale de Westeros, ce monde aux frontières du médiéval et du fantastique. Et on y retrouve, alors évidemment, les fans de la série comprendront ce que je veux dire, bien, plusieurs scènes célèbres qui ont été tournées, évidemment sur les remparts, desquelles on voit l'Adriatique, ou la porte de Pilée, où le roi Geoffrey se fait insulter et attaquer par ses sujets très mécontents, ou encore les escaliers de la rue des Jésuites, à partir de laquelle la reine Circé va traverser la ville dans la célèbre scène de la Marche de la Honte, qui sont autant de lieux cultissimes, évidemment, pour les fans de la série.
Shame, shame, shame.
Vous vous êtes rendu, vous, début juillet, sur place. Il y avait déjà beaucoup de monde ?
Oui, beaucoup de monde, comme dans toutes les villes très touristiques, avec des restaurants pleins midi et soir. Mais rien à voir avec ce qu'on a pu connaître avant l'épisode du Covid, où la ville était littéralement assiégée, prise d'assaut par des milliers de personnes qui étaient agglutinées dans, finalement, ce qui est une toute petite ville. Hein, cette vieille ville de Dubrovnik mesure 300 ou 400 mètres de côté. C'était absolument saisissant, avec des scènes surréalistes où les gens en étaient presque venus à se piétiner.
Franck, la pandémie avait transformé la ville en cité fantôme.
C'est exactement le terme. J'ai rencontré des gens, des guides qui m'ont raconté la scène. Cette ville qui était habituée aux hordes de touristes était quasiment vide, avec la grande rue centrale vide, qui était absolument incroyable. C'en était même un peu inquiétant, parce que tout ce monde du tourisme se demandait si un jour les touristes allaient revenir.
On a trouvé quelque chose ici. Quelque chose que vous êtes le seul à pouvoir comprendre.
Oh mon Dieu.
Nous savons qu'il reviendrait. Peut-on entendre dans la bande-annonce d'Independence Day 2, ils sont en train de revenir, je ne parle pas des aliens, mais des touristes. Vous le disiez, Dubrovnik était la ville de l'Adriatique concurrente de Venise il y a 2 siècles, et elle partage aujourd'hui un autre point commun avec la cité italienne. Elle est victime du surtourisme ?
Elle a eu une fréquentation presque démentielle à l'échelle de sa taille. On parle de plusieurs millions de touristes par an. Alors, comme je vous le disais, qu'il s'agit d'une petite ville médiévale, finalement réduite de par sa taille, constituée de petites ruelles qui recevaient en même temps jusqu'à 6 ou 8 paquebots en même temps. Vous savez, ces grands bâtiments des mers qui peuvent accueillir 2500, transporter 2500 passagers chacun, avec des scènes absolument presque démentielles, quand une fois ou deux, à cause d'une averse soudaine, tous les passagers ont voulu regagner leur navire. On a assisté à des scènes de bousculade qui peut-être auraient pu être dangereuses. Alors que pourtant, évidemment, c'était une ville qui connaissait le tourisme, hein. Même du temps de la Yougoslavie communiste, la perle de l'Adriatique était déjà là, et la ville était très fréquentée, mais avec un tourisme qui n'avait strictement rien à voir. Ce n'était pas la vogue des croisiéristes qui passaient à peine une journée, mais des gens qui venaient en vacances une semaine, 2 semaines. Donc on était tout à fait dans un autre mode de consommation touristique.
If you're a Game of Thrones fan, Dubrovnik is a fantastic place to visit filming locations from the show. With its red rooftops, castles, and walled harbor, you'll recognize this as King's Landing, the capital of the Seven Kingdoms.
On parlait de Game of Thrones, la série n'a fait qu'accroître finalement les difficultés de la ville.
Oui, c'est ça, à partir de la diffusion de cette série cultissime, ça n'a fait finalement qu'accélérer le phénomène. Et alors, surtout au sein d'une population qui ne connaissait probablement pas Dubrovnik, c'est-à-dire les jeunes qui ont découvert cette ville avec la série, et qui ont entraîné parfois même des débordements. Je vous parlais tout à l'heure de cette scène de Walk of Shame, qui est, je crois, dans la cinquième saison. Là, encore une fois, les fans s'en souviendront, durant laquelle la reine Circé traverse la ville entièrement nue, sous les quolibets, les crachats de la foule. Eh bien, à plusieurs reprises, de jeunes Australiens, m'a-t-on raconté, ont voulu rejouer cette scène, provoquant quelques débordements et surtout la colère de la mairie, qui a été obligée d'interdire et de prohiber le fait de se promener nu dans la ville au risque de se voir infliger une amende de 900 euros.
Ouais, des touristes mis à l'amende. Plus globalement, que fait la municipalité ? Comment est-ce qu'elle agit pour freiner ce phénomène du surtourisme ?
Alors, dans un premier temps, à partir de 2017, sous l'impulsion du nouveau maire, elle a d'abord tenté de freiner le phénomène en limitant le nombre de paquebots, en signant un accord avec les grandes compagnies de croisière et en exigeant que le nombre de paquebots soit limité à 2 en même temps par jour, 2 ou 3 maximum. L'idée de la mairie était ensuite d'essayer de réguler les flux de touristes en s'appuyant, et ça c'est assez nouveau, en s'appuyant sur le numérique. C'est-à-dire que les touristes disposent d'une application à laquelle ils peuvent se connecter, qui leur permet de connaître les heures de fréquentation et les perspectives de fréquentation de la ville et de caler leur visite avec les moments où on aura moins de monde dans les rues.
The city of Dubrovnik in Croatia has been flooded with tourists. And why? It's to the point that UNESCO's warning its World Heritage status could be at risk. Games of Thrones filming there has created an amazing amount of tourism.
Il y a 3 ans avant la crise du Covid, le maire de Dubrovnik était venu parler de ses problèmes dans le journal de CNN en direct. Il avait expliqué vouloir promouvoir un tourisme plus respectueux de l'environnement. C'est une ville très ancienne avec une histoire riche et nous voulons que nos touristes découvrent une destination de grande qualité. Alors il vous a dit, hein, Franck, qu'il estimait que la ville, étant donné sa taille, avait une capacité d'accueil de 8000 personnes. Personne, pas plus. Un message aux bateaux de croisière qui affluent sur le port de Cruz, distant de 5 km. Comme à Venise, l'ennemi, ou plutôt l'indésirable, c'est le croisiériste qui ne rapporte pas grand-chose à la ville.
C'est évidemment difficile parce que les compagnies de croisière sont des entreprises très, très puissantes et il est difficile de négocier avec elles. La ville de Dubrovnik y a réussi. Alors c'est tout de même une source de revenus puisque ces grands navires, quand ils accostent au nouveau port de la ville, payent un droit d'accostage mais qui est finalement assez peu élevé, environ 10 000 euros par jour, donc ce n'est pas grand-chose, avec des croisiéristes, comme vous le dites, qui, lorsqu'ils viennent en ville, dépensent assez peu, alors que, évidemment, le tourisme individuel est, lui, plus rémunérateur. En revanche, si on compare les politiques menées à Dubrovnik par rapport à Venise, elles sont assez différentes. Venise prévoit d'essayer de taxer les touristes pour, sinon les décourager, au moins en tirer des subsides, dit la mairie, essayer de subventionner ou de payer, finalement, les inconvénients liés au surtourisme et notamment le nettoyage. Il n'en est pas question à Dubrovnik. On ne veut absolument pas faire payer ces touristes croisiéristes et on veut garder la ville ouverte. Le maire préférant, comme on le disait tout à l'heure, une politique d'incitation et de régulation des touristes, une sorte de manière douce si l'on veut.
Avec une autre stratégie aussi qui est intéressante pour Dubrovnik, c'est que la ville joue la carte tourisme culturel.
Oui, c'est-à-dire que elle joue aussi sur toutes ses attraits naturels, de sa beauté, de ses nombreux bâtiments que l'on peut visiter, de son attraction touristique numéro un que constitue le tour des remparts à pied. Hein, c'est des remparts qu'on parcourt sur un peu moins de 2000 mètres et qui offrent un panorama d'un côté sur la ville, quand on est à l'intérieur de la ville, et puis une fois que l'on se retrouve sur l'Adriatique, un panorama extraordinaire sur la mer. Et elle essaie de promouvoir des visites de ces bâtiments avec des sortes de passes qui permettent de visiter tous les musées pour une somme relativement modique. Et puis, elle parie pour l'avenir, elle tente de parier pour l'avenir sur une sorte de diversification. Ça, c'est un peu le rêve du maire. On a dit qu'évidemment, elle avait été très populaire grâce à Game of Thrones. Elle a ensuite reçu quelques tournages de grands films hollywoodiens populaires et elle rêve un peu d'attirer de nouveaux tournages. Donc elle parie un peu sur le cinéma avec le projet de construire des studios dans une des banlieues de la ville. L'autre ambition du maire serait de se développer dans le monde du numérique en tablant sur le haut débit avec une ligne haut débit qui devrait arriver en ville d'ici 2-3 ans avec un accord avec Deutsche Telekom. Mais enfin, ce sont quand même des projets qui restent lointains et quand le maire explique qu'il ambitionne à terme d'en tirer la moitié de ses revenus, c'est quand même très ambitieux et peut-être même un peu irréaliste.
L'année dernière, j'étais en vacances en Croatie. J'ai passé un magnifique séjour. Je me suis sentie en sécurité. J'y retournerai à nouveau cette année.
Choisissez la destination aux 1000 atouts naturels et culturels recommandés par de nombreux Français.
Dubrovnik et plus largement la Croatie sont devenus des destinations prisées des Européens et notamment des Français, comme on peut l'entendre dans cette publicité de l'Office du tourisme lancée il y a un an pour réamorcer la pompe après le Covid. En 2021, je le disais, le pays a accueilli 14 millions de touristes, dont 550 000 ont visité Dubrovnik, 10 fois la population de la ville. Ce qu'on comprend aussi, Franck, c'est que la Croatie, comme la perle de l'Adriatique, ont besoin de tourisme ?
Oui, elle a non seulement besoin du tourisme, mais elle en est même totalement dépendante. Hein. De l'aveu même du maire, elle tire au moins 80% de ses revenus du tourisme. Et en discutant, en analysant un peu les revenus de la ville et en en parlant avec d'autres habitants, c'est peut-être plus. 99,9% des commerces sont dédiés au tourisme. Au sein de cette petite ville, on dénombre plus de 150 restaurants, 170 commerces de souvenirs en tout genre. Donc, il y a peu de choses pour finalement les habitants permanents en ville. Et ce qui est le gros problème de la ville, c'est-à-dire que c'est une petite ville qui se dépeuple, qui n'a jamais été très très peuplée, hein. C'est une ville de petite taille, mais qui a abrité 6 ou 7 000 habitants il y a encore quelques dizaines d'années, et qui en compte aujourd'hui sans doute moins de 1 200. Et c'est un gros problème parce que finalement, une ville qui perd ses habitants perd son âme, comme le disent certains de ses habitants qui le regrettent, et c'est un risque aussi pour le tourisme, c'est-à-dire que c'est le risque de voir une ville devenir, comme le disait l'un de ses habitants, une sorte de parc à thème, mais finalement sans âme. Et ça, c'est aussi un gros risque, puisque les touristes pourraient, qui viennent à titre individuel et veulent faire partie pendant quelques jours de la vie de cette ville, ne pourrait s'en détourner. C'est un gros risque.
We are fighting to still be the city, not some place that you go, not Disneyland or Game of Thrones.
On se bat pour rester une ville, ce n'est pas Disneyland, expliquait le président du conseil de quartier du centre-ville. La ville historique, qui n'accueille plus que 1200 habitants intramuros, nous avons perdu 60% de notre population en 20 ans, et c'est ce qu'il dénonçait dans ce reportage de France Info. Trop de touristes tuent la ville, mais sans touristes, moins de prospérité. C'est un vrai casse-tête pour ces villes. L'équilibre est difficile à trouver, et le maire de la ville est loin de faire l'unanimité dans son projet de développement touristique.
C'est-à-dire que même les gens les plus favorables à cette politique de développement touristique, étant donné qu'aucune autre industrie, entre guillemets, n'est capable de vivre cette ville aujourd'hui, regrettent qu'il n'y a pas plus d'incitation pour aider les habitants à rester à Dubrovnik, qui ont une vie difficile. Hein. Même si on vit au sein d'une ville absolument splendide, la vie quotidienne est compliquée, peu de commerce de proximité, très difficile de conserver sa voiture et de pouvoir la garer en dehors de la ville parce que les parkings sont très chers et plutôt réservés aux touristes. Donc bref, c'est difficile pour eux, sans oublier que de plus, ils sont, même quand ils arrivent à louer leur appartement, ce qui est souvent la seule source de revenus possible, subissent des taxes très, très importantes et on ne fait pas vraiment la distinction entre les habitants qui partagent leur logement avec un touriste de temps en temps, avec les investisseurs. Et puis sans compter que certains prêtent au maire des intentions un peu cachées. On sait par exemple qu'il projette de gros investissements dans le port qui reçoit les bateaux, tout en disant qu'il n'en recevra pas plus de 2 ou 3 à la fois. Donc on sent la ville à un moment un peu charnière après les excès du surtourisme avant la pandémie. On voit bien que les touristes sont revenus, mais on se demande un petit peu quelle direction Dubrovnik va prendre. Est-ce qu'elle va s'orienter vers un tourisme plus mesuré ou est-ce qu'elle risque de retomber dans ses travers du passé? C'est un petit peu la question du moment.
Ça vous a donné envie d'y aller en vacances ou pas ?
Très franchement, Pierrick, oui. Mais avec un petit conseil, évitez la période estivale des mois de juillet et d'août, et de l'aveu même de tous les habitants, la meilleure période est celle de l'automne, septembre et octobre, quand il fait encore très bon et que les baignades sont formidables au large des remparts de la ville.
Merci Franck Niederkorn, journaliste aux Échos, pour cette visite de la perle de l'Adriatique. Demain, changement de décor, prenez une petite laine. On partira avec Pauline Jacquot sur les pentes caillouteuses du Mont Blanc. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de La Story sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club, with me, Maisie Williams. And each week, we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.